Il y a un écho dans notre esprit. Vous le sentez ? Quand on glorifie Dieu, il y a un écho dans notre esprit. Quand on proclame Dieu, il y a une perspective qui s'ouvre même dans notre être. Pourquoi ? Parce qu'on a été créé par Dieu. Il a pris de la terre et il a mis son souffle. On est en même temps des êtres matériels, des êtres terrestres et en même temps des êtres surnaturels, des êtres d'éternité. Notre corps, il va finir en poussière. Mais notre esprit, il demeure à jamais. Et quand on dit gloire à Dieu, notre esprit résonne parce qu'il a été créé pour sa révélation. Et il attend cette révélation. Alors ce matin, je voulais qu'on parle ensemble sur avec quelle perspective est-ce que j'avance dans la vie. Le thème, c'est le renouvellement de l'intelligence. Avec quelle perspective je vis ma vie, je vois les choses autour de moi, j'analyse ce qui est autour. Ce qu'on pense est extrêmement important parce que ce qu'on pense va influencer nos pensées, ça va influencer mes actions, ça va influencer mes choix, ma vie et même l'éternité. Vu qu'on est des êtres éternels, notre choix pour l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Dieu, il a créé, je vais juste lire le verset de Romains 12, on va le lire ensemble. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu, il a pour chacun de nous des plans extraordinaires. Il a pour chacun de nous un appel particulier. Et grandir dans la perspective de Dieu, et être renouvelé dans notre compréhension, c'est trouver encore plus de liberté, encore plus de joie dans cette marche quotidienne avec Dieu. C'est profiter encore plus des bénédictions qu'il a pour nous. Être transformé, c'est afin de discerner la volonté de Dieu. C'est bon. Sa volonté pour nous, elle est bonne. Elle est agréable, elle est parfaite. Alors ce matin, je voudrais qu'on aborde quelques points qui sont très fondamentaux, mais qui sont tellement essentiels. À un endroit dans la Bible, Paul il dit, on ne va pas forcément parler des choses fondamentales, mais des choses plus importantes. Mais moi, j'ai envie qu'on parle des choses fondamentales ce matin. Parce que la parole de Dieu, elle est essentielle. Sa parole, elle est puissante. Elle produit quelque chose en nous. Et j'avais l'image d'un vase de fleurs de la terre qu'on doit arroser. Et on ne l'arrose pas un tout petit peu. La vérité de Dieu, elle doit nous imprégner jusqu'au plus profond, comme une terre qu'on doit nourrir, qu'on doit arroser abondamment pour que ça pousse. Et ce matin, je prie que ces vérités, elles viennent en nous. Dieu nous appelle à méditer sa parole, à la méditer, parce que c'est important, c'est très important pour nous. Alors, si aujourd'hui vous êtes chrétien, ou si aujourd'hui vous avez dans votre cœur comme une perception qu'il y a quelque chose de différent, un sentiment qu'il y a autre chose que juste ce que je connais ici-bas, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas vous qui avez créé ça, c'est Dieu qui se révèle à nous. Si aujourd'hui on est chrétien, c'est Dieu qui nous a ouvert les yeux en premier. Dieu se révèle en premier. Au moment de la chute avec Adam et Ève dans le jardin, il y a eu cette rupture entre Dieu et nous. Et aujourd'hui, quand on perçoit la grandeur de Dieu, on perçoit sa gloire, c'est que lui, il a pris notre prise et l'a branchée sur lui. C'est ça en premier. Cette vérité, elle est fondamentale. C'est pas moi qui m'approche, qui fais des efforts. Ah, je cherche un sens à ma vie, je vais m'approcher de Dieu. Non, c'est avant tout lui qui a ouvert nos yeux, qui a ouvert notre cœur. Et nous, à cette révélation, on répond, on croit. Croire, il y a trois choses qui sont importantes pour croire. La première, c'est connaître, avoir entendu parler, avoir lu, c'est connaître. Mais connaître, ça ne suffit pas. La Bible dit, les démons savent qui est Dieu, mais ça ne suffit pas. Ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Il faut approuver, c'est-à-dire être d'accord. Mais ça non plus, ça ne suffit pas. Il faut décider. de croire, décider de dépendre de Jésus pour le pardon de mes péchés, tout ce qui s'oppose à Dieu dans ma vie et pour la vie éternelle. La foi, c'est décider de mettre ma confiance en Jésus, décider de croire qu'il a une réponse pour tous mes besoins, croire dans sa vérité. Éphésiens 2, 8 à 9 dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La foi, c'est un message d'espérance extraordinaire pour tout le monde. Parce qu'une fois qu'on a cette perception de Dieu, la seule chose c'est « je veux y croire ». Ça ne dépend pas de mes œuvres, ça ne dépend pas de moi. C'est juste croire. Alors, hop là, pardon. La foi est très très puissante. Par la foi, on est justifié. Ça, c'est extraordinaire. Par la foi, on est justifié. Par notre réponse, Dieu nous voit juste. Qu'est-ce que ça veut dire, il nous justifie? Il nous déclare juste. Juste par notre foi, il nous déclare juste. Il annule nos péchés d'avant, il annule nos péchés maintenant, il annule nos péchés qui vont venir. Et non seulement il remet nos compteurs à zéro, mais en plus, il nous met la justice de Dieu sur nous. Et il nous voit juste, au travers du sang de Jésus. C'est extraordinaire. Quand Jésus, il était sur la croix, il a pris sur lui nos imperfections, il a pris sur lui nos manquements, il a pris sur lui nos maladies, nos souffrances, notre tristesse, nos douleurs. Et il est mort. Et Dieu l'a ressuscité par le Saint-Esprit. C'est un message extraordinaire qui dit, aujourd'hui nos manquements ne sont pas plus forts que lui. Aujourd'hui notre tristesse n'est pas plus forte que lui. Notre douleur n'est pas plus forte que lui, que son précieux nom. Et c'est ça qu'il a mis sur nous, cette justice-là. Alors pourquoi est-ce qu'il a utilisé la foi pour nous justifier? Il aurait pu utiliser la sagesse, il aurait pu utiliser la joie. Mais la foi, c'est la seule attitude de cœur qui s'oppose complètement à l'individualisme, à l'indépendance, à la suffisance, à l'autonomie. La foi, elle dit, je renonce à continuer de dépendre de moi. Je veux dépendre de lui. Je veux choisir de croire. La justification, c'est une déclaration sur notre vie qui se fait une fois pour toutes sur cette terre. Et elle est parfaite, même ici-bas. La déclaration de justice sur nos vies, elle ne va pas nous transformer de l'intérieur. C'est une déclaration officielle sur nous, une déclaration spirituelle sur nous. Et elle est pour chacun d'entre nous identique. Elle est parfaite. Toutes ces vérités, elles sont tellement importantes parce que toutes les pensées qui viennent dans mon quotidien, elles se heurtent souvent à ces vérités. Oui, mais en fait, c'est moi qui essaie de faire des efforts pour m'approcher de Dieu. Ouais, mais en fait, je ne suis pas si bien que ça. Oui, mais en fait, les autres sont beaucoup mieux quand même. Toutes ces pensées qui viennent, quand on proclame cette vérité-là, ça fait obstacle, ça fait foi, c'est une déclaration, c'est comme un papier officiel. Alors il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Nos pensées qui viennent nous condamner, elles n'ont pas de droit. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ. C'est la foi qui nous justifie. Alors quand dans Romains 12 on lit « Ne vous conformez pas au monde présent », Paul il nous dit « Mais vous avez été branchés sur Dieu ». C'est de lui que doit venir la vérité pour votre vie. C'est de lui que doit venir votre identité. Ne vous laissez pas modeler par ce que le monde dit, mais laissez-vous modeler dans votre compréhension par sa vérité à lui. C'est ça qui fait foi. Pour croire en Dieu, dans notre réponse à Dieu, il y a un deuxième ingrédient, en plus de la foi, qui est vraiment essentiel. C'est la repentance. Quand Jésus, il a appelé les gens, il leur disait, il a dit à l'homme riche, « Oui, tes réponses, elles sont bonnes pour croire en moi, mais va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Il ne demande pas forcément de faire ça à chacun, mais ce qu'il demande en fait, c'est de lâcher ce qu'il y a derrière pour pouvoir suivre Jésus. Quand on se tourne vers Jésus, on se détourne de quelque chose. Quand on choisit de se marier avec son mari, sa femme, on choisit de ne pas se marier avec les autres. On se détourne des autres. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand on choisit de croire en Jésus, on se détourne des choses qui nous retiennent, qui s'opposent, qui sont d'une autre nature que celle qui est branchée à Dieu. Paul, il est venu, et son ministère, c'était de proclamer la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Les deux vont de pair. Croire et choisir de renoncer. La repentance, elle dit, je regrette sincèrement mon péché, ce qui s'oppose à Dieu. Je le dénonce. Et je m'engage de tout cœur à y renoncer et à marcher dans l'obéissance de Dieu. C'est ça la repentance. C'est une libération. C'est une déclaration de libération, une déclaration de soumission à Dieu, parce que sa volonté pour nous, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors tout ça, c'est des points qui sont très importants au moment de la conversion, c'est des choses qui sont importantes. On choisit de croire parce qu'on a eu cette révélation. On choisit de se repentir, de se détourner des choses d'avant. Mais ce n'est pas juste pendant la conversion, à la conversion. C'est quelque chose de tous les jours. Jésus, il a enseigné, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière qu'on est appelé à faire et à refaire et à refaire. Et c'est une qualité de cœur à avoir, le pardon. Demander pardon à Dieu quand on remarque qu'on s'est détourné et pardonner les autres pour libérer là où il y a eu une offense. Et avec tout ça, on est en marche. On est en marche, étape après étape. Comment on vit cette vie tous les jours? On a dit que Dieu nous avait justifiés. C'est notre déclaration officielle, on est rendu juste, on est déclaré juste. Mais dans notre vie tous les jours, on est appelé à un processus avec Dieu. Dieu, il veut nous faire grandir à l'intérieur. Il veut qu'on soit de plus en plus libre des choses futiles, des choses qui ne lui rendent pas gloire. Et être de plus en plus semblable à lui. C'est ce qu'on appelle souvent la sanctification. Mais je trouvais très important de faire ce parallèle entre la sanctification qui est une condition intérieure, un processus, et cette justification qui n'est pas notre fruit à nous, qui est une déclaration sur nos vies. Mais dans notre marche, oui, dans cette intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, il y a un processus de gloire en gloire. La sanctification, c'est une condition intérieure qui est différente pour chacun en fonction de nos cheminements. Et elle ne sera jamais parfaite sur cette terre. Elle s'arrêtera, ce processus-là, s'arrêtera juste à la fin de notre vie. Romains 6, 22. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification. Et pour fin, la vie éternelle, la sanctification. Nous tous, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire. Qui n'a pas déjà eu le sentiment de faire deux pas en arrière dans sa vie? Ou d'être plus bas qu'avant, alors qu'avant il allait mieux? Tous, hein? Un jour j'ai entendu ça et ça fait tilt dans ma tête. C'est pas parce que nous on sent qu'on fait deux pas en arrière qu'on va pas de gloire en gloire. Dieu, il a dit qu'on allait de gloire en gloire, qu'on était transformés de gloire en gloire. Et même si des fois je me sens pas bien, ayons confiance que dans ce processus-là, c'est de gloire en gloire pour sa gloire. Dieu n'attend pas de nous qu'on soit parfait. Dans cette repentance, ce n'est pas oh, « il faut que je sois parfait tout le temps, il faut que je dois absolument trouver pourquoi je dois me repentir », ce n'est pas ça. C'est comme disait Isabelle Allom quand elle est venue, c'est cette culture de l'intimité avec Dieu. Comment je réagis à cette intimité avec Dieu, à cette relation tous les jours? C'est cette malléabilité entre ce que Dieu va me dire et ma réponse dans une relation d'amour avec Dieu. Des points qui sont fondamentaux dans notre vie, pour nous, à transmettre aussi aux autres. Et il y a un exemple qui illustre tout à fait ça, c'est le peuple d'Israël. J'aime énormément les histoires du peuple d'Israël, parce que Dieu n'a jamais attendu qu'Israël soit parfait, et si vous lisez leur vie, vous verrez à quel point Dieu y fait grâce, et à quel point même quand ils font des bêtises et qu'ils reviennent sincèrement à Dieu, il fait grâce. Il renouvelle son alliance tout le temps, tout le temps. Abraham a été appelé par Dieu, d'abord, et ensuite il a quitté. Le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, Dieu est apparu à Moïse. Il a dû aller s'expliquer devant les anciens en leur expliquant ce que Dieu voulait faire, libérer. Et les anciens, ils ont dû répondre, est-ce qu'on est d'accord de croire à ça ou pas ? Dieu les a libérés de l'esclavage. Il a fait alliance avec eux. Et après, ils auraient pu se réjouir, hein, ils n'étaient plus en esclavage. Alors, certes, dans le désert, ce n'était pas top peut-être, mais ils auraient pu se réjouir déjà rien que de ça. Et nous, des fois, on pourrait se réjouir juste parce qu'on est converti. Ah, parce que Dieu, il nous a donné des promesses pour nos vies. Il nous a donné un appel, c'est extraordinaire. Oui, d'accord, mais maintenant, le peuple d'Israël, il a dû traverser la rivière avant de passer à Jéricho. Et à l'époque de l'année où ils ont traversé, c'était un torrent. C'était énorme l'eau qu'il y avait. Mais ils ont juste cru que Dieu allait pourvoir. Et quand ils ont cru que Dieu allait pourvoir, ça a ouvert l'eau. Ils ont pu passer à sec. Dieu nous a donné à chacun un appel, je l'ai dit au tout début. Mais il nous demande notre part à nous tous les jours. À Israël, il leur a dit, voilà votre territoire, depuis ce fleuve-là, jusqu'à ce territoire, jusqu'à cette ville, etc. Il a délimité des appels pour des territoires pour chaque tribu. Il fait la même chose avec nos vies. Voilà ton appel, voilà ce que Dieu veut pour toi, ta destinée. Mais ils ont dû le conquérir. Ils ont dû entrer en possession de ce territoire. Ils sont arrivés à Jéricho avec une énorme muraille, beaucoup trop grande pour eux. Beaucoup trop grande pour leur nombre, pour leur capacité militaire. Ils ont fait quoi? Ils ont demandé à Dieu sa stratégie. Quelle est ta stratégie pour cette muraille? Dieu nous invite à faire la même chose dans nos vies, devant nos propres murailles, devant nos propres territoires, face aux promesses que Dieu nous a données. C'est quoi ta stratégie? La stratégie pour Josué n'avait rien d'une stratégie militaire, rien du tout. Faire 7 fois le tour de Jéricho, franchement, ce n'était pas très impressionnant d'un point de vue militaire. Mais ils ont obéi. Ils ont obéi et c'est ce qui a fissuré la muraille. C'est ce qui a ébranlé la muraille. Et Dieu nous appelle à cette même intimité tous les jours. Tous les jours. Pour conquérir notre territoire. Pour conquérir notre appel. On va rencontrer des murailles. Des murailles de l'amertume. Des murailles de la colère. Des murailles de l'addiction. De la dépendance. Mais pour chacune de ces murailles, Dieu il a une stratégie. Et il veut que dans cette intimité, avec ses fondamentaux, pas avec les petites voix qu'on va entendre, avec sa vérité. Il veut qu'on entende sa stratégie et qu'on avance. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Daniel, dans la parole de Dieu, est un homme extraordinaire. Il est arrivé en tant que petit garçon, il a été enlevé de sa famille en Israël pour être mis à Babylone. Il a été élevé par les hautes sphères babyloniennes, enraciné, endoctriné avec tout ce qu'il devait apprendre pour devenir quelqu'un d'important pour le gouvernement de Babylone. Il était là avec quelques copains lui aussi. Il s'est déraciné de ses racines, il n'était pas à l'endroit d'où il venait. Et pour prendre soin d'eux, juste avant que le roi décide en fait qui seraient les meilleurs conseillers pour lui, la personne qui s'occupait d'eux devait les nourrir, devait prendre soin d'eux. Et il leur offrait, à mon avis, une nourriture extravagante. La Babylone, c'était un territoire énorme à cette époque, très très puissant. Et comme on le sait dans ces cultures-là, la nourriture, c'était très faste, il y avait beaucoup de choses. Et Daniel, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, non, tu nous donneras à nous que des légumes et le strict minimum. Alors, je ne parle pas de tous nos courants à nous, d'accord? Ce n'est pas pour parler de ça. C'est pour dire que Daniel a choisi de ne pas se laisser engraisser par des choses qui venaient du monde où il était. Il a choisi de ne pas se laisser engraisser, de ne pas se laisser remplir par les choses futiles qui venaient de Babylone, mais d'avoir l'essentiel. Et il a grandi dans cette obéissance, dans ce respect de Dieu tout au long de sa vie. Il n'a pas eu peur de prier 3 fois par jour, même quand c'était interdit. Il a continué à garder cette intimité avec Dieu. Et il a influencé le pays où il était par sa foi. Et le Seigneur, il nous appelle à faire la même chose, à faire la même chose. Ne vous conformez pas au monde présent. Qu'est-ce qui vous engraisse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous remplit, qui peut-être n'a pas besoin de vous remplir? Qu'est-ce qui est essentiel pour Dieu? Que le Seigneur y renouvelle notre intelligence pour qu'on sache comprendre quelle est sa volonté pour nous, pour l'endroit où il nous a placés, pour cette nation. Il a des choses à dire. Daniel, il n'a jamais fléchi le genou devant le roi, devant des choses qui pouvaient impressionner, devant la menace. Il a été obéissant à Dieu. Et dans cette obéissance-là, il a révélé Dieu. Et même le roi a reconnu que Dieu était Dieu. Et je crois que le Seigneur, il nous invite, chacun où on est, à avoir cette même démarche de Daniel. De prendre conscience que oui, on doit apprendre les choses de notre monde. On doit exceller dans ce que le Seigneur nous a donné, là où il nous a placés. Là où il nous a placés, il nous demande d'exceller. Mais ne vous conformez pas dans votre intelligence. Soyez transformés et marquez une différence. Le Seigneur est un Dieu qui parle, qui aime parler. Et il va vous donner des choses à dire à vos collègues. Il va vous demander de prendre des responsabilités peut-être. Il vous demandera peut-être de sortir du bateau, de sortir du lot. Et ce message-là, c'est ça. Gloire à Dieu. Avec cette perspective-là, je veux avancer dans ma vie. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait. Il cherche un cœur humble pour une intimité avec lui. Ces étapes, Dieu se révèle en premier. Notre foi, la repentance, on est justifié. Ce sont des choses qui arrivent au moment de la conversion. Et je ne sais pas si quelqu'un, ça touche particulièrement ce matin. Si quelqu'un se sent interpellé. Parfois, c'est une petite impression qu'on a qu'il y a quelque chose de différent. Mais Dieu t'invite alors à juste répondre par la foi. Pas en faisant le calcul de qu'est-ce que tu as déjà fait de bien ou de pas bien, non. Juste décider de croire. Et ce matin, si tu ressens ça dans ton cœur, tu peux faire. Tu peux prier, tu peux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je regrette sincèrement mon péché. Je le dénonce, ma vie d'avant. Je m'engage de tout cœur à y renoncer et à marcher dans l'obéissance à Dieu. Amen.